Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Bouris.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Pour la première fois depuis de longs mois, les migrations africaines ont cessé cette semaine d'être estompées par celles venues de Syrie. Dans l'actualité, en tout cas, cette émigration africaine a en effet été au cœur de la conférence internationale qui s'est tenue à Malte et qui a réuni les Européens et les Africains, 28 Européens et 35 Africains. Parmi les dirigeants africains, il y avait Macky Sall, le président sénégalais, qui a vigoureusement plaidé en faveur des ressortissants de son continent.
Ensemble, refusons la stigmatisation. Ensemble, refusons la politique des barricades et du repli sur soi. Ce n'est pas la voie de l'avenir. La voie de l'avenir, pour nous, c'est celle du partenariat. Ensemble, agissons pour une migration maîtrisée et apaisée qui facilite la cohabitation et les échanges.
De son côté, François Hollande a milité pour une aide accrue au développement de l'Afrique.
Si demain il y a des migrations en grand nombre, ce sera une très grande difficulté pour l'Europe et ce serait très grave pour l'Afrique. Ça voudrait dire que ses meilleurs éléments, celles et ceux qui pourraient être l'avenir de ce continent, ne pourraient pas faire le déploiement de leurs propres talents, de leurs propres activités, ce qui serait fatal pour l'Afrique et ce qui serait un risque pour l'Europe. Donc notre intérêt commun, c'est qu'il y ait des politiques de développement.
Ces migrations seront également en arrière-plan de la grande conférence climatique COP21 qui se tient à la fin du mois à Paris, car selon les experts en la matière, qui dit réchauffement climatique dit plus de pauvreté et plus de migrations climatiques. Mais ces migrations, toutes ces migrations d'Afrique subsaharienne, ne concernent pas que les développés du Nord. Il y a aussi beaucoup de gens qui se déplacent de pays africains en pays africains. Et c'est de tout cela dont nous allons parler au cours de cette émission avec les invités que je vous présente maintenant. Bonjour Nathalie Bougnou.
Bonjour.
Nathalie Bougnou, vous travaillez au sein de la division recherche et développement de l'AFD, l'Agence française de développement. Vous y êtes chargée de mission, entre guillemets, migration et démographie. L'AFD et l'OCDE viennent de publier conjointement un gros rapport sur les diasporas d'émigrés en 2015. De quoi s'agit-il exactement? Qu'est-ce que dit ce rapport en deux mots?
En fait, il s'agit d'un rapport qui est issu de la base de données DIOC sur les migrants présents dans les pays de l'OCDE.
La base de données DIOC,
c'est... DIOC, c'est une base de données qui est à disposition sur le site de l'OCDE, donc que nous contribuons à financer, et qui permet d'analyser les caractéristiques des migrants présents dans les pays de l'OCDE de 2000 à 2010.
Et s'il y avait une idée à retenir de ce rapport, quelle serait-elle ?
Que les migrants sont de plus en plus qualifiés et que la migration subsaharienne, notamment, représente une très faible part des migrants présents dans les pays de l'OCDE, où on a beaucoup plus de migrants d'origine de l'OCDE, justement.
Alors, on en reparlera au cours de cette émission. Avec nous également, Flore Gubert, bonjour.
Bonjour.
Flore Gubert, vous êtes professeure associée à l'École d'économie de Paris et chargée de recherche à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Vous avez publié en 2010, avec trois autres co-auteurs, un livre intitulé « Madagascar face aux défis des objectifs du millénaire pour le développement ». C'est aux éditions IRD, donc de votre institution. On sait que Madagascar est un des pays les plus pauvres au monde. Est-ce que le fait que ce soit une île complique le départ des immigrants? Est-ce qu'il y a beaucoup de démigration malgache?
Alors, paradoxalement, non. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui quittent la grande île pour l'Europe ou pour d'autres pays d'Afrique. Est-ce que c'est une barrière géographique? Je veux dire que je l'ignore, peut-être en partie. En revanche, des migrations internes, des zones rurales vers les grandes villes de Madagascar.
Avec nous également dans ce studio, Alexandre Marc, bonjour.
Bonjour.
Alexandre Marc, vous êtes le spécialiste en chef à la Banque mondiale pour les questions de fragilité, de conflits et de violence, vaste programme. Toute question qui concerne évidemment souvent l'Afrique. Vous venez par ailleurs de diriger une étude intitulée « Relever les défis de la sécurité et de la stabilité en Afrique ». Sécurité, stabilité, est-ce que cela veut dire aussi émigration ?
Ben évidemment, les questions de migration sont très centrales dans ces questions de stabilité. On sait qu'il y a eu beaucoup de conflits en Afrique dans lesquels le problème des migrations était assez central. Le conflit de la Côte d'Ivoire, par exemple, la guerre civile en Côte d'Ivoire, mais aussi des tensions très claires en Sierra Leone, au Liberia, dans les conflits entre le Sénégal et la Mauritanie. Dans tous ces éléments-là, les aspects de migration étaient très importants.
Au cours de cette émission, vous entendrez des reportages nombreux, d'abord à Paris avec les migrants africains, grâce à Gaël Lalex. Dans la deuxième partie de cette émission, nous irons à Abidjan sur un marché où Anna Sylvestre a rencontré des travailleurs venus du Burkina Faso voisin. Et nous irons aussi à Conakry en Guinée où Coralie Pierret a tendu son micro à des migrants de retour au pays. Flore Gubert, au début de l'émission, nous avons entendu les présidents Macky Sall du Sénégal et Hollande de France lors du sommet de Malte qui s'est terminé jeudi. Est-ce que ce sommet de Malte, à votre connaissance, aura des retombées importantes pour gérer les flux de migration venus d'Afrique ?
En tout cas, il y a une volonté forte, manifestement, d'essayer de faire un peu avancer les choses. Il y a notamment des engagements financiers, alors qui sont toujours un peu décevants au regard des enjeux du point de vue des pays du Sud, mais enfin qui ont quand même le mérite d'exister. Après, on voit évidemment qu'il y a toujours une tension entre la position des pays dits du Nord et puis ceux qui envoient des migrants au Sud, puisque la position des pays du Nord, c'est toujours d'essayer de, ce qui a d'ailleurs un sens, de favoriser le développement des pays d'origine, avec cette idée que si on intervient très en amont, ça va progressivement tarir les flux. Et puis de l'autre côté, la volonté des pays du Sud de voir les frontières s'ouvrir davantage pour que ceux qui souhaitent partir, soit par nécessité absolue, soit par souhait de découvrir l'étranger, puissent le faire.
Alexandre Marc, même question. Cette conférence de Malte, elle marque un point d'inflexion, c'est une date historique ou c'est une conférence parmi mille autres ?
C'est un petit peu difficile de dire maintenant. Ça va dépendre surtout de la façon dont du suivi des décisions de cette conférence. Mais je suis tout à fait d'accord qu'il y a une volonté de se poser vraiment la question de comment on va gérer ça dans le futur. D'autant plus que ce n'est certainement pas quelque chose qui va s'arrêter. Quand on voit les tendances démographiques en Afrique, il est certain que ça va être un problème qui va uniquement s'accroître. Un problème ou aussi une solution. Parce que dans beaucoup de cas, l'émigration peut aussi être un avantage.
Pour qui ?
Pour les populations qui n'ont pas de possibilité de gagner leur vie décemment dans leur pays, c'est évident que si elles peuvent arriver à s'intégrer mieux, c'est bien. Pour les pays eux-mêmes, où le retour de financement de ces migrations peut être très important pour les familles dans les pays, on le sait bien, c'est très important. Mais aussi, de temps en temps, pour les pays qui reçoivent eux-mêmes, parce qu'il y a beaucoup de travaux qui ne sont pas faits par les personnes de ces pays et qui peuvent en bénéficier. Ça, c'est l'aspect évidemment positif.
Alors, lors de ce sommet de Malte, les Européens sont engagés à créer un fonds d'1,8 milliard d'euros pour développer en priorité trois zones, le Sahel, bassin du lac Tchad, avec un trait d'union entre ces deux mots, ces deux expressions, la Corne de l'Afrique, deuxième zone, et l'Afrique du Nord, troisième zone. Cette somme financera sur 5 ans des projets de développement. Écoutez ce qu'en a dit le président du Niger, Mohamedou Issoufou, à l'envoyé spécial de RFI à Malte, Léonard Vincent.
Il me semble que l'aide publique au développement ne suffira pas. C'est vrai que l'Union européenne propose la création d'un fonds fiduciaire de 1,8 milliard d'euros. Cela ne suffira pas. Les besoins sont énormes. C'est pour cela que, dans nos propositions, nous avons estimé qu'il faut monter un véritable plan Marshall pour faire face à ce phénomène migratoire.
Nathalie Bougnou, il faut un plan Marshall pour faire face à ces migrations. C'est un cliché, c'est quelque chose qui a du fond.
Ce qui est certain, c'est que effectivement, il faut parvenir à développer des opportunités sur place, notamment pour les jeunes qui seront de plus en plus nombreux et qui vont représenter 30% de la population mondiale des 15-24 ans en 2050. Après, effectivement, il y a à la fois la question de l'aide au développement, mais aussi de parvenir à une économie qui crée des emplois, qui soit créatrice de ressources. Et l'idée que l'Afrique doit aussi parvenir à se transformer de manière structurelle, y compris grâce aux potentialités des territoires et à développer ces potentialités-là avec l'accompagnement des bailleurs de fonds, mais aussi donc une transformation propre de l'Afrique avec une dynamique endogène de développement.
Le 1,8 milliard d'euros, Alexandre Marc, qui est promis là par l'Europe à l'Afrique, c'est un apport important, nécessaire?
C'est un apport important, mais moi j'ai un chiffre en tête que les migrations en 2010, dans un rapport que l'on a fait, que les remittances, c'est ça?
Les virements
en retour, c'est 40 milliards de dollars estimés. Donc vous voyez 1,8 milliard par rapport aux 40 milliards que rapportent les virements faits par les populations en Afrique, c'est pas tout à fait là.
C'est rien, Flore Gubert, 1,8 milliard.
On est d'accord. Oui. C'est vrai que la comparaison avec les flux de transfert que réalisent les migrants chaque année est tout à fait pertinente, parce qu'on voit bien qu'on n'est pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur.
Alors, pour preuve de l'importance de ce flux migratoire en Europe venu d'Afrique subsaharienne, écoutez ce reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Gaël Lalex, dans les rues de Paris, il y a quelques jours.
Comme toutes les semaines, Germain fait la queue devant l'association France Terre d'Asile, dans le 18e arrondissement de Paris, dès 6h du matin. Il suit l'avancée de sa demande d'asile. Germain a fui le Congo-Brazzaville.
Aujourd'hui à Brazzaville, le Congo-Brazzaville, pays pétrolier, il y a la merde. Pays riche, hein, vachement riche. Sassou n'a pas développé le pays. Le Congo, indépendance en 1960. Jusqu'à aujourd'hui, quand vous partez là-bas, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité. Il y a l'instabilité totale. Là-bas, j'avais un métier, mais sauf pour employer les gens, c'est difficile. Il y a les racismes. Le côté nord, côté sud, ils embauchent que le côté nord d'abord. J'ai un métier, je suis électricien. Je fais 23 ans comme temporaire à la SNE, Société Nationale d'Électricité. On est maltraité. La santé, ça ne marche pas. Même le coton à l'hôpital, le malade doit acheter. C'est grave. L'économie, ça ne marche pas. L'éducation, ça ne marche pas. Comment les gens peuvent vivre dans un pays comme ça? Pour manger, il y a des gens qui mangent 1 euro par jour. C'est n'importe quoi. Moi, je dis que Sassou n'a pas développé le pays.
Germain espère trouver un emploi pour envoyer de l'argent à sa famille et leur assurer un minimum de sécurité financière. Certains pays laissent ainsi partir une partie de leur population. Catherine Vitold de Venden est chercheuse au CNRS, spécialiste des migrations.
Avoir des migrants à l'extérieur, ça leur donne une visibilité. Si on voit les Érythréens à Calais, certains vont se dire il faut les aider dans leur pays. Donc ça peut donner aux grandes structures d'aide au développement l'idée qu'il faut aider ces pays pour qu'il y ait moins de migrants. Ils vont être bénéficiaires d'aide au développement. Donc pour eux, ils sont complètement bénéficiaires dans cette conduite de la diplomatie des migrations dans les pays d'accueil.
L'Érythrée, la Somalie ou encore le Mali dépendent ainsi de leur diaspora. D'autres pays encore ont fait de l'immigration un pan de leur politique économique. C'est notamment le cas de la Libye. Muammar Kadhafi avait signé avec l'Union européenne des accords de rétention de migrants moyennant finances. Ablaye Koulibaly est sénégalais. Ce soudeur mécanique a travaillé des mois à Tripoli avant de rejoindre l'Europe.
Je travaille pour un Sénégalais pendant 3 mois, 4 mois à Libye. 5e mois, il m'a dit, attends, je te donne l'argent, tu bouges. Chaque mois, il me paye 75 000 francs CFA. Si tu n'as pas le choix, il faut prendre. On nous traite comme des chiens là-bas. Là. On t'insulte. Bon, on est venu pour passer. Il y a des gens qui font 2 ans, 3 ans à Libye pour venir ici.
D'après la Banque mondiale, 30 millions d'Africains vivent aujourd'hui hors du continent.
C'est un reportage signé Gaël Lalex, donc dans les rues de Paris. Alexandre Marc, ce chiffre de 30 millions d'Africains qui vivent hors de Paris, vous le confirmez ?
Hors d'Afrique, oui. Oui, absolument. Bon, c'est toujours très, très difficile d'estimer. Hein. Il y a énormément d'émigrations clandestines qu'on ne mesure pas, mais disons, c'est une estimation. C'est particulièrement important, mais vous avez il y a une chose qui est très importante à voir, c'est que l'Afrique a toujours été un continent de grands mouvements. Même depuis la période coloniale, hein. Donc il y a une tradition de très grands mouvements à l'intérieur de l'Afrique. Pas forcément de départ de l'Afrique, mais de mouvements. Par exemple, l'émigration du Burkina Faso sur la Côte d'Ivoire.
On en parlera dans la deuxième partie de l'émission. Mais Flore Gubert, vous en pensez quoi de ce reportage? C'est la violence des conditions sociales, c'est la pauvreté, c'est la misère qui provoque ces départs?
En partie, je crois que les motivations au départ, elles sont multiples et les raisons, voilà, multifactorielles. Vous avez effectivement, dans certains cas, des situations compliquées dans les pays de départ. Vous pouvez aussi avoir, c'est des migrations simplement parce que c'est des migrations d'aventure. On a tous envie aussi d'aller découvrir l'ailleurs et donc c'est pas nécessairement toujours et de façon systématique des migrations de miséreux qui fuient la pauvreté. insécurité et des conditions difficiles. Je pense qu'il y a vraiment tous les cas de figure, ceux qui se présentent.
Nathalie Bougnou, l'Agence française de développement, elle conforte ce point de vue ?
Oui, en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a quand même une très grosse majorité des migrants d'Afrique subsaharienne qui restent en Afrique subsaharienne, où il y a effectivement cette tradition de mobilité, notamment de migration de voisinage. Pour ce qui est des migrants subsahariens dans les pays de l'OCDE, on est quand même sur 37% de personnes très qualifiées. Donc il faut voir aussi qu'il y a la question de est-ce qu'on peut rester dans son pays quand on est très qualifié, est-ce qu'on peut y trouver un emploi. Il y a toutes ces questions-là. Et donc effectivement, comme le disait Flore Gubert, on n'est pas forcément sur une migration de miséreux, peu qualifiés, masculines, etc.
Alors, ce qui est curieux, c'est que l'Afrique se développe. Il y a des chiffres de croissance qui sont très impressionnants, qui l'étaient en tout cas ces dernières années. Et malgré tout, ces vagues migratoires se poursuivent. C'est justement parce que ce ne sont pas que des gens qui sont à la recherche d'un meilleur destin, Alexandre Marc.
Alors moi, je pense que le problème de la croissance, c'est très bien que finalement l'Afrique ait pu en partie rejoindre le monde des pays à croissance forte. Hein. L'Asie l'a été pendant très longtemps, c'est quand même ce qui a permis à l'Asie de sortir de ses difficultés. Mais le problème, c'est la nature de la croissance en Afrique pour le moment. Donc c'est une croissance qui est forcément ne crée pas énormément d'emplois formels, ne crée pas énormément d'emplois semi-qualifiés. Beaucoup, beaucoup des Africains sur le marché du travail sont des gens qu'on pourrait qualifier de semi-qualifiés. C'est-à-dire des gens qui ont une formation qui est du niveau secondaire ou du niveau universitaire, mais pas hyper qualifié. C'est-à-dire que vous n'avez pas les postes, si vous voulez. Si vous prenez l'industrie extractive, en fait, on remarque que beaucoup d'industries extractives, comme le pétrole qui s'est beaucoup développé en Afrique récemment, créent en fait très peu d'emplois. Les emplois qu'il y a, c'est des emplois d'ingénieurs très qualifiés. Et là, il y en a quelques-uns en Afrique, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc même sur des domaines comme ça, les compagnies qui investissent amènent des gens de l'extérieur du continent. Donc il y a une difficulté d'adéquation entre la demande et l'offre d'emploi. C'est très 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 fort dans la nature de la croissance. En plus, les investissements se font de plus en plus dans le domaine de la technologie. Évidemment, ce sont des investissements technologiques importants, et ça veut dire qu'on n'a pas forcément des investissements qui créent beaucoup d'emplois aujourd'hui, comme ils le créaient il y a 20 ans. On avait des investissements avec une composante technologique moins importante.
C'est une croissance appauvrissante, Nathalie Bougnou ?
Appauvrissante, non, je ne pense pas, mais c'est vrai que c'est peut-être un autre type de croissance, en tout cas, que le modèle de développement qu'ont connu notamment les pays de l'OCDE.
Et donc, ça ne crée pas d'emplois et ça favorise l'immigration.
Pour le moment, ça crée peu d'emplois. Ensuite, par exemple, l'Agence française de développement travaille justement à créer davantage d'adéquation entre la formation des jeunes et les opportunités d'emploi sur place. Et la vraie question, c'est, en dehors de la formation des jeunes, justement, est-il possible d'accompagner une croissance économique davantage créatrice d'emplois et peut-être de regarder davantage le secteur informel, justement, comme un possible pourvoyeur d'emplois pour ces jeunes ?
Mais Flore Gubert, les pays européens, bon, il y a ce fonds d'1,8 milliard qui est créé, on parle beaucoup de co-développement. Est-ce que c'est le rôle des pays européens ? Est-ce que c'est leur mission d'aider au développement des pays africains ? Ou est-ce que c'est à eux-mêmes de se prendre en charge et de créer de la richesse et des emplois ?
Alors, je vais vous répondre, mais peut-être juste avant ça, revenir un peu sur un point, c'est que vous disiez, l'Afrique se développe et pourtant il y a de plus en plus de migrations. Je voudrais peut-être un tout petit peu nuancer ça, parce que c'est vrai que l'Afrique se développe, on voit des pays qui ont l'air de décoller. Il faut quand même pas oublier que beaucoup des migrations africaines sont à l'intérieur du continent. Donc il y a ces pôles de croissance, ils suscitent aussi des migrations internes, enfin intracontinentales, disons. Hein, et donc c'est cette idée que au fond les flux migratoires ne font que s'accroître en provenance d'Afrique, en tout cas pour ce qui concerne l'Europe. Je pense qu'il faut faire un petit peu attention, parce que c'est pas si clair. C'est-à-dire que forcément la population africaine augmentant en termes absolus, le nombre de migrants augmente, hein, mais après en termes relatifs, les choses sont beaucoup plus nuancées. Voilà, absolument.
Nathalie Bougnou, vous confirmez ? C'est aussi votre analyse ? Les flux migratoires n'augmentent pas tant que ça ? Vers l'Europe, depuis l'Afrique ?
En fait, les flux migratoires, donc avec les données qu'on a de l'OCDE, entre 2000 et 2010, en provenance d'Afrique subsaharienne, ont presque doublé, mais on reste à 5% du stock des migrants dans les pays de l'OCDE et 6% des flux. Donc c'est vraiment une part très marginale.
De la migration.
De la migration à destination des pays européens.
Oui. Eh bien, nous poursuivrons cette conversation après un flash d'actualité dans quelques minutes.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI. Écho d'ici, écho d'ailleurs, Jean-Pierre Boris.
Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, nous parlons de l'Afrique, l'Afrique subsaharienne et des mouvements de population qui s'y déroulent. En d'autres termes, des migrations. Trois invités pour nous éclairer sur cette question complexe. Flore Gubert, professeure associée à l'École d'économie de Paris et chargée de recherche à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Nathalie Bougnou, chargée de mission migration et démographie au sein de la division recherche et développement de l'Agence française de développement. Et Alexandre Marc, spécialiste en chef à la Banque mondiale pour les questions de fragilité, de conflit et de violence. Au cours de la première partie de cette émission, nous avons évoqué assez longuement le sommet euro-africain de Malte. Mais quelles sont les caractéristiques de cette aide que les Européens apportent à l'Afrique et quelle est son efficacité? C'est la question que j'avais commencé à vous poser, Flore Gubert, à la fin de cette première partie, et vous n'y avez pas encore répondu. Alors je vous repose la question, est-ce que ce co-développement, ça fonctionne? Est-ce que ça permet d'enrayer les migrations comme l'espèrent les Européens?
Alors, vous avez parlé d'efficacité de l'aide et de co-développement. Je crois que c'est deux choses qui sont un tout petit peu différentes. Bon, sur l'efficacité de l'aide, je vous renvoie là. Il y a une littérature plus qu'abondante sur cette question, et dont la conclusion est que, on est souvent un peu déçu de l'impact de l'aide sur le développement. Pour ce qui concerne plus les questions de co-développement, donc là, l'idée, c'est d'essayer d'accompagner les migrants lorsqu'ils font le choix de mener des projets de développement dans leur région d'origine, par exemple, en apportant des cofinancements ou alors en proposant aux migrants des formations en gestion ou pour mettre en œuvre leurs projets. Et là, je dirais que il n'y a pas eu d'évaluation très très précise de ces programmes de co-développement. On est sur des ordres de grandeur très faibles en termes de financement. Et je dirais que là, le bilan est ni extrêmement positif ni non plus négatif. C'est-à-dire que le principe, c'est d'apporter des subsides en plus que ce qu'apportent déjà les migrants pour investir dans des biens publics, etc. Et donc, pour le coup, ce qu'on observe, c'est que grâce à l'intervention des migrants, bien des villages sont dotés d'écoles, d'infrastructures de santé, etc. Et donc cet accompagnement qui est fait, il n'est probablement pas inutile.
Alexandre Marc, tout à l'heure, soulignait le défaut de formation des travailleurs africains. Nathalie Bougnou, ce sont des gens formés, qualifiés ou absolument pas formés qui forment cette cohorte de migrants africains?
À destination des pays de l'OCDE, 37% sont très qualifiés, donc c'est-à-dire qu'ils sont diplômés du supérieur. C'est un chiffre qui a doublé depuis 2000, donc on est vraiment sur une tendance à l'augmentation qui est liée aussi à des politiques assez sélectives en matière d'immigration. Donc on peut dire que cette migration est principalement, en tout cas, qualifiée. Ce que l'on a observé dans les migrations intra-régionales avec les données dont on dispose de l'OCDE, c'est que en migration intra-régionale, on est plutôt sur une tendance moins qualifiée.
C'est-à-dire que les gens qui passent d'un pays africain à l'autre
sont moins qualifiés que ceux qui partent. Ce qui est assez logique, puisqu'il faut disposer d'un certain capital, y compris capital humain et financier, pour pouvoir migrer à destination de pays de l'OCDE.
Mais c'est un grand appauvrissement pour les pays africains, Alexandre Marx, ce départ des diplômés?
Bon, c'est un problème. En même temps, on a des chiffres de certaines enquêtes que l'on a fait récemment qui disent que, donc évidemment, c'est pas représentatif à l'échelle du continent, mais qui disent que 40% des personnes employées dans les pays qui ont été l'objet de ces enquêtes ont des emplois qui sont sous-qualifiés, c'est-à-dire qui sont en dessous des qualifications auxquelles ils ont été formés. Dans leur pays d'origine. Donc il y a quand même un problème aussi d'utilisation des qualifications qui sont produites en Afrique.
Flore Gubert, vous constatez ça dans les deux pays sur lesquels vous travaillez, le Mali et le Sénégal?
C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on observe dans beaucoup de pays d'Afrique, en tout cas pour les pays que je connais d'Afrique de l'Ouest, on observe un paradoxe, c'est que alors que dans nos pays, l'éducation protège
dans nos pays européens,
absolument, protège du chômage, C'est l'inverse qu'on observe dans bien des capitales ouest-africaines. C'est-à-dire plus vous êtes éduqué et plus vous avez de chances d'être au chômage parce que vous ne trouvez pas d'emploi qui soit à la mesure ou de vos compétences. Et donc, ça explique effectivement que quand on regarde la composition des flux migratoires, on observe une évolution. Si on prend le cas du Mali, que je connais bien, par exemple, disons, jusqu'au début des années 90, c'était une migration qui était pour l'essentiel le fait de personnes originaires de milieux ruraux, de régions rurales et peu éduquées. Et avec d'abord la montée moyenne du niveau d'éducation au Mali, d'une part, et puis la montée du chômage dans les zones urbaines chez les qualifiés, effectivement, on observe une augmentation croissante du nombre de qualifiés dans les flux. Et c'est vrai que ça, c'est renforcé par des politiques migratoires qui sont effectivement de plus en plus sélectives.
Est-ce que les femmes sont très présentes dans ces flux migratoires? Parce qu'on parle de migrants, mais on pourrait parler peut-être de migrantes, Nathalie Bougnou.
Oui, tout à fait. Quasiment la moitié, en fait, des migrants d'Afrique subsaharienne sont des femmes actuellement dans les pays de l'OCDE. Donc on est arrivé à quasiment une parité. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'elles sont de plus en plus qualifiées également.
Comment expliquer cette féminisation des migrants, Flore Gubert? Est-ce qu'on a étudié ça? Est-ce qu'on sait pourquoi les femmes partent maintenant plus qu'avant et à parité avec les hommes?
Si, disons, à la fin des années 50, début des années 60, les migrations subsahariennes étaient très masculines, parce que, là, en fait, les pays européens faisaient appel
à des
travailleurs. En fait, avec la fermeture progressive des frontières, et ça a démarré, disons, au milieu des années 70, déjà, ce qui s'est passé, c'est que il y a de plus en plus de familles qui sont venues, hein, des problèmes de regroupement familial, et donc, quelque part, ces rapprochements familiaux, ils ont aussi féminisé les stocks de migrants, nécessairement. Donc, ce qui est nouveau, c'est le fait que aujourd'hui, des femmes migrent de façon autonome, c'est-à-dire sans nécessairement que ce soit en lien avec la migration de leur époux. Et alors, comment ça s'explique? Je crois que c'est un petit peu le même phénomène que celui auquel je faisais allusion tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez une montée du niveau d'éducation, chez les femmes y compris, qui sont une incitation à migrer dès lors que ces personnes éduquées ne trouvent pas d'emploi dans leur pays d'origine.
Ça peut aussi être, Alexandre Marc, le résultat de violences politiques ou...
Alors ça, c'est un autre phénomène qu'il faut quand même tenir en compte. Quand on voit la composition aujourd'hui des pays d'origine de la migration, on voit que certains pays ont pris de plus en plus d'ampleur, comme l'Érythrée par exemple, ou la Somalie, ou le Soudan du Sud, et ces pays-là sont tous des pays affectés par les conflits. Donc il faut aussi voir, ça c'est un phénomène important, parce que l'immigration qui vient de ces pays-là est quand même un peu différente. Ce sont des gens, bien qu'il y a aussi des retours de financement dans ces pays-là, etc., mais ce sont des gens qui sont dans des situations beaucoup plus précaires pour revenir. Ils n'ont pas un filet de sécurité. Certains n'ont même pas la potentialité de retour. Si vous avez quitté l'Érythrée, vous ne pouvez pas revenir en Érythrée. Si vous avez quitté la Somalie, de zones très dangereuses, en général, ça va être très difficile pour vous de revenir. Donc, ces migrations-là sont importantes et elles ont un aspect un peu différent. Elles ont quand même une dynamique différente. Quand on part un pays forcé ou dans la violence, et surtout quand on est parti avec toute sa famille proche, ça présente quand même quelque chose de différent. Et ça, c'est le cas des réfugiés, de la différence entre les migrants économiques et les réfugiés, c'est quand même assez différent.
Je voudrais vous faire part d'une petite expérience personnelle. Il y a quelques années, je me suis rendu pour un reportage en Amérique latine, en Équateur, pays de très forte émigration vers l'Europe et aussi vers les États-Unis. Et certaines zones rurales, certains villages étaient totalement désertés par les hommes. Il ne restait plus que les femmes, les vieux et les enfants. Est-ce qu'on peut constater la même chose dans certaines régions du Mali, par exemple, ou d'autres pays africains, Flore Gubert?
Ça correspond assez bien à la description qui pouvait être faite de villages de la région qui est située à l'extrême ouest du Mali, à la frontière avec le Sénégal et la Mauritanie, qui s'appelle la région de Kaï. C'est vrai que si vous regardez des ouvrages de sociologues et d'anthropologues sur cette région, c'était souvent un peu le constat, enfin ce constat de villages qui soient totalement dépourvus de bras valides. Encore une fois, c'est vrai, même si il se trouve que les familles qui sont dans cette région sont en général des familles élargies ou cohabitent plusieurs familles nucléaires, si je puis dire, si bien qu'il reste quand même quelques hommes qui sont en mesure de travailler la terre, etc.
On va se rendre en Côte d'Ivoire maintenant avec un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Anna Sylvestre à Abidjan, et qui évoque ce que vous citiez tout à l'heure à la fin de la première partie de cette émission, Flore Gubert, c'est le caractère panafricain des migrations. On va parler maintenant avec Anna Sylvestre de ce qui se passe en Côte d'Ivoire avec les populations immigrés du Burkina Faso.
Et tout ça, c'est les demandes de volaille qui est là, jusqu'au fond là-bas.
Sur des dizaines de mètres, les caisses de bois s'entassent et à l'intérieur, les bêtes, piaille sans cesse. Nous sommes au rez-de-chaussée du grand marché de Koumassi, là où se vendent les volailles. Ici, les commerçants sont pour la plupart burkinabés et comme Richard Caboret, tous ont suivi le même parcours. Jeunes, c'est loin des poulets, dans les plantations qu'ils ont d'abord travaillé.
Après les études, je me suis rendu en Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire a plein des atouts que le Burkina n'en a pas aujourd'hui. L'eau, c'est source de vie. Le Burkina Faso, nous n'avons pas la mer, nous n'avons pas de forêt. Côte d'Ivoire, il y a la forêt. Donc quelqu'un qui veut travailler vraiment, tu peux gagner ta vie facilement.
Assis sur un petit banc en bois, à l'abri de la chaleur et de l'agitation, Draman est un des collègues de Richard Caboret.
C'est café, cacao, et puis maïs, du riz. Et c'est ce qu'on faisait ensemble là-bas. Bon, j'ai fait ça pendant 9 ans. Hein.
Ce sont les parents de Draman qui, du temps de la colonisation, sont les premiers de la famille à être arrivés en Côte d'Ivoire. Dans les champs, ils étaient alors une main-d'œuvre bon marché. Aujourd'hui, ils sont plus de 2 millions de Burkinabés à vivre dans le pays voisin.
C'est pas même garantir les papiers, c'est pas même papier. Mais les gens là, c'est pareil. C'est pareil. Je vois, c'est le même pays, mais c'est le nôtre qui a différencié.
La plupart des Burkinabés de Côte d'Ivoire sont actifs et travaillent dans le secteur primaire. Une richesse pour leur pays d'origine, auquel beaucoup envoient régulièrement des fonds, mais plus encore pour la Côte d'Ivoire elle-même. Mamadou Salogo en est en tout cas persuadé. Il est le président du Conseil national des Burkinabés dans le pays.
Moi, je pense que dans la sous-région, vous ne verrez pas un pays développé comme la Côte d'Ivoire. Hein. Aujourd'hui, le président, il est très content de dire premier cacao, premier. Mais qui a fait ce premier? C'est les Burkinabés, attention. Ceux qui ont refusé d'accueillir les étrangers, aujourd'hui se trouvent à quel niveau du développement?
En Côte d'Ivoire, un quart des habitants sont étrangers, d'après le recensement de la population effectué l'année dernière. Une proportion rarement égalée dans le monde.
C'était un reportage d'Anna Sylvestre à Abidjan et vous êtes sur RFI dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Nous parlons migration subsaharienne avec trois invités, Alexandre Marc de la Banque mondiale, Nathalie Bougnou de l'Agence française de développement et Flore Gubert de l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD. L'émigration burkinabé en Côte d'Ivoire, c'est un cas à part, Flore Gubert, dans tout ce maelstrom de population que nous décrivons depuis le début de cette émission?
Non, je ne crois pas que ce soit un cas à part. Ce qui rend cette émigration particulièrement étudiée, c'est que c'est son ampleur. Quoi. On l'a entendu dans le reportage, 2 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Et je pense qu'on est probablement sur une fourchette basse.
C'est-à-dire que c'est plus de monde, Nathalie Bougnou, selon vos informations, en Côte d'Ivoire, plus de Burkinabés que 2 millions?
Alors, on ne dispose pas pour la Côte d'Ivoire de données, en tout cas dans le cadre de l'étude avec l'OCDE. Donc, je ne peux pas vous dire d'estimation de ces chiffres. Voilà.
Alexandre Marc, vous avez des chiffres à la Banque mondiale?
On a pas mal étudié le conflit, la guerre civile de Côte d'Ivoire et on a vu combien ce problème était central. Alors, ce qui se passe avec la Côte d'Ivoire, c'est assez spécial. Si vous allez dans le sud du pays, on va vous parler de Burkina, de gens du Burkina, mais en fait, c'est souvent des gens du nord de Côte d'Ivoire. Et les gens du nord de Côte d'Ivoire vont dire qu'ils sont eux-mêmes de Côte d'Ivoire, mais en fait certains ont des origines burkinabées. Il faut voir que le nord de la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, c'était quasiment le même pays avant l'indépendance. C'était une zone socio-culturelle qui était totalement similaire et que très fortement pendant la période coloniale, on a poussé cette émigration très fortement pour pouvoir développer la côte de la Côte d'Ivoire, qui était très sous-peuplée par rapport au potentiel économique. Donc vous avez un phénomène très ancien, c'est ça surtout qui est important à voir, c'est un phénomène très ancien qui même bien avant la colonisation, c'était à travers les flux commerciaux, les commerçants étaient des gens du Nord qui descendaient, etc. Donc c'est très ancien. Alors le problème qu'on a eu énormément, c'est que dans une économie moderne, il faut aussi pouvoir gérer un petit peu plus cette immigration. Donc il y a des lois sur l'immigration en Côte d'Ivoire, mais quand on peut pas savoir qui est un migrant, qui n'est pas un migrant, qui vient du Nord, et que les politiciens ont poussé à la confusion pour leur propre intérêt. Ça a touché le président actuel de la Côte d'Ivoire lui-même, qu'on a accusé d'être un Burkinabé pendant très longtemps, et donc de ne pas pouvoir devenir le président de la Côte d'Ivoire. Donc ça a été au cœur de ce problème du conflit. En ce sens-là, je pense que ce n'est pas une exception, mais c'est quelque chose qui a été tellement présent dans un des grands conflits de l'Afrique que c'est intéressant.
Mais quand le président du Conseil national des Burkinabés, qu'on entendait dans ce reportage à l'instant, dit que les pays africains qui ont refusé les immigrants ne se sont pas développés, est-ce qu'il a raison ? Est-ce que l'immigration contribue au développement, à la richesse des pays qui reçoivent ces immigrants ? Flore Gubert, je vous vois opiner du chef.
J'opine, parce que je pense que la réponse est oui. Je pense que c'est une richesse, une force de travail. Pas seulement pour les pays d'Afrique qui reçoivent des migrants, mais aussi pour les pays européens. On présente toujours l'immigration comme un coût pour les pays d'accueil. Or, les études sont assez unanimes pour dire que le plus souvent, l'effet est neutre et peut-être même positif, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, sur le marché du travail, on entend que les immigrés volent le travail des non-qualifiés, etc. Et donc, ça explique l'importance du chômage dans nos pays. Or,
dans
nos pays européens. Or, ce que montrent les études, c'est que, en réalité, les ressources apportées par les immigrés sont complémentaires de celles qui sont de celles des autochtones, si je puis dire. Et donc, cette concurrence qui serait exercée par les migrants sur les marchés du travail des pays européens, elle ne s'observe pas quand on fait des études un peu fines. De la même façon, on entend souvent dire que les migrants font peser, façon un point important pour les finances publiques des pays d'accueil, parce que
pour l'assurance maladie, par exemple.
Absolument, pour l'assurance maladie, pour les allocations familiales et tout type, et pour les retraites, que sais-je. Or, de la même façon, quand on fait ce calcul un peu complexe de voir ce que les migrants apportent en termes de contribution sociale à travers leur travail et ce qu'il coûte au système de protection sociale, on s'aperçoit que au final, on a un bénéfice net. Et donc, c'est important de le dire et de le redire, parce que c'est vrai que l'opinion générale est que la migration est peut-être positive pour les pays de départ, très certainement positive pour les migrants, mais forcément négative pour les pays d'arrivée.
Alexandre Marc, vous, de votre point de vue de chercheur, d'économiste de la Banque mondiale, est-ce que ces migrations sont aussi un facteur de stabilité pour les pays africains ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est un facteur d'instabilité, la présence de cette main-d'œuvre abondante, peut-être ici ou là, qui vient d'autres côtés de la frontière ?
Alors, c'est les deux, ça dépend comment c'est géré. Donc, si vous parlez des migrations à l'intérieur de l'Afrique, en effet, il y a eu, parce qu'il y a aussi d'autres phénomènes, hein, il y a des phénomènes culturels qui sont quand même très importants, qu'il faut voir. Donc, il y a des populations qui ont un certain mode de vie, qui se reconnaissent pas forcément avec le mode de vie d'une autre population, etc. Et il y a des peurs qui sont liées, qui sont très peu fondées, mais qui sont liées au fait que ces gens amènent une façon de vivre différente, une religion différente, etc. Donc il faut bien reconnaître qu'il y a tous ces phénomènes qui ne sont pas des phénomènes économiques, mais qui jouent dans les migrations. Je crois que ça a été une source de stabilité, parce qu'en effet, ils ont permis le développement rapide de certaines zones qui étaient sous-peuplées.
Vous pensez auxquelles ?
Le sud de la Côte d'Ivoire, par exemple, ou même une certaine partie du sud de la... Si vous voulez, toutes les zones côtières, Sierra Leone, Liberia et tout, il y a eu beaucoup d'immigrants qui sont arrivés et ça a aidé à développer ces zones. C'est sûr qu'elles étaient sous-peuplées au moment du développement de ces zones. Alors, ce qui s'est passé, moi, je trouve le cas de l'ouest de la Côte d'Ivoire est très intéressant. Elle parle de la gestion de... Beaucoup de ces immigrants sont venus, en fait, pour développer les terres. Hein. Donc, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, ils sont arrivés, ils ont rencontré un système de droit de la terre qui était extrêmement flou, lié à des sociétés qui avaient un système de gestion de la terre très horizontal et très peu structuré, disons, dans lequel chaque chef de famille avait beaucoup de contrôle sur les terres. Quand les jeunes de l'ouest de la Côte d'Ivoire sont descendus en ville parce que la Côte d'Ivoire était en plein boom et qu'il y avait beaucoup d'opportunités en ville, les immigrants sont venus et les ont remplacés pour cultiver le cacao et c'était des terres extrêmement riches. Il y a eu beaucoup d'ambiguïté sur la façon dont on leur a passé les terres, dont les chefs de villages locaux leur ont passé les terres. Et donc, il y a eu des ambiguïtés par rapport à la durée. Et quand les jeunes de ces populations sont revenus, quand la crise a commencé, ils ont découvert que beaucoup de migrants du Nord avaient occupé leurs terres. Et donc là, il y a eu en fait un éclatement du conflit en Côte d'Ivoire qui s'est déplacé d'un conflit nord-sud sur un conflit sur l'ouest. très très fortement. Ça, c'était lié en fait à un problème par rapport à la gestion du droit de la terre. Donc, juste pour dire que ces émigrations demandent des gestions de beaucoup d'éléments. Les droits des migrants, c'est une chose, la gestion de la terre, c'est une autre, la gestion de l'identité. Il y a encore près de, je crois, 30% des gens qui n'ont pas de carte d'identité en Côte d'Ivoire. Donc, comment vous allez prouver d'où ils viennent et quels sont leurs droits? Donc, tous ces éléments demandent une gestion très bonne. Avec une bonne gestion, ça peut être positif.
Alors, revenons à ces migrants qui partent vers l'Europe. Parfois, ils échouent et ils retournent au pays. C'est un reportage signé Coralie Pierret à Conakry, en Guinée.
Il y a le poisson, il y a le poisson.
Au port de Bolbinet, Alexis est vendeur de poissons. Mais au-delà des étals du marché, il rêve d'ailleurs. Il y a quelques mois, il est parti tenter sa chance au Maroc avant de revenir dans son pays natal.
Quand je suis rentré, j'avais tellement dépensé. J'ai vu un ami même qu'on a tué devant moi. Quand je suis venu au pays, les amis me disaient ça, ah, toi, tu n'es pas courageux. Et l'argent que tu as envoyé, tu as tout gaspillé ça. Mais personne ne comprend réellement ce qui se passe là-bas. Mon expérience, ça a été un échec quand même, mais pas totalement, parce que ceci m'a donné beaucoup d'idées encore.
Dans sa boutique d'alimentation, Diallo a lui aussi voulu réussir en Europe.
C'est comme un rêve que j'avais. Si je n'étais pas parti en Europe, peut-être j'allais réussir plus où je suis. J'ai perdu 4 ans. Je préfère rester ici chez moi. Parce que ici, je vis mieux. Tout le monde me respecte. Tu vis chez toi, toute ta famille sont près de toi.
Depuis 2005, l'Organisation internationale pour les migrations a aidé 2500 Guinéens à se réinstaller. Abdoulaye Diallo est chargé du projet.
Dans une infime partie des cas, ce retour est réellement volontaire. Mais dans la majorité des cas, c'est des gens qui ont compris que s'ils ne retournent pas, ils sont perdants dans tous les cas. C'est des gens qui reprennent leur vie presque à zéro. C'est des gens complètement déracinés. Il y en a qui retournent vraiment très frustrés.
En 2013, la Guinée était la seconde nationalité à demander l'asile en Belgique, derrière l'Afghanistan.
C'était un reportage de Coralie Pierret à Conakry, en Guinée. Nathalie Bougnot, il y a beaucoup de gens comme ça dans vos statistiques qui échouent et qui rentrent au pays ?
En fait, dans les statistiques dont on dispose, on ne connaît pas le statut des personnes, donc on ne peut pas savoir s'ils rentrent de manière volontaire ou pas. Ce qui est certain, c'est que effectivement, il y a une question qui est liée à l'accompagnement des personnes qui rentrent de cette manière-là, c'est-à-dire qui peuvent retourner par des programmes de retour volontaire, mais pour qui c'est vraiment un échec, et où là, il y a besoin quand même d'un accompagnement assez important pour pouvoir se réinsérer dans le pays d'origine. Et avec des activités qui soient, disons, sur le long terme et pas seulement 2000 ou 3000 euros pour monter un business et un suivi sur un an et qui s'arrête là.
Il faut leur apprendre à gérer. Vous en rencontrez beaucoup, souvent, Flore Gubert, dans vos études sur le Sénégal ou le Mali, vos deux terrains de recherche, des gens comme ça qui sont partis en Europe et puis qui ont échoué et qui reviennent?
Oui, je rencontre bien sûr. Ce que je trouve, ce qui est très bien montré dans le reportage, c'est on voit bien que les attentes sont très fortes, tant pour celui qui part que pour sa famille. Et c'est ce que dénonce le premier interlocuteur. C'est il dit bon ben voilà, ma famille, mes amis m'ont dit tu je sais pas comment tu t'es débrouillé et puis t'as bouffé l'argent. On voit bien que les attentes de la famille, elles sont presque plus fortes que celles du migrant, parce qu'il y a cette pression qui est exercée sur le migrant pour qu'il reverse une partie de son salaire et donc évidemment celui qui échoue et qui décide, qui fait le choix de rentrer contre son gré, subit cette opprobre.
Mais Alexandre Marc, le migrant africain, on a l'impression que c'est un peu un produit d'exportation.
Les migrants, c'est toujours quelque part, si on prend une vision très économique, un produit d'exportation. Dans le sens, quand vous voyez le montant des retours que ces migrants ramènent en Afrique, qui est supérieur à l'aide apportée à l'Afrique. Donc les migrants ramènent plus que la totalité de l'aide apportée à l'Afrique, selon nos statistiques. Donc vous voyez que quand même, c'est au point de vue purement
de
balance des paiements et de flux économiques, c'est sûr que c'est un produit d'exportation. Dans la réalité, évidemment, il faut voir la réalité humaine, mais et aussi les manques à gagner qui peuvent être créés par ces départs. Mais comme on voit que même pour l'éducation supérieure, la demande n'est pas au niveau de l'offre sur le marché, on peut se demander en effet si dans l'immédiat, ce n'est pas en fait une logique économique assez raisonnable pour ces pays de penser que la migration va leur ramener énormément de ressources.
Je reprends mon expression, elle est peut-être un peu provocante, Flore Gubert, le migrant africain est produit d'exportation.
En un sens, oui, c'est vrai que d'un point de vue purement comptable, voilà, on exporte des cerveaux et puis en échange, on en a des devises. Peut-être un petit point. Et la marchandise est renvoyée si elle fait pas l'affaire, hein, ou se rentre d'elle-même, ou alors est maintenue à la frontière si on s'aperçoit qu'il y a eu erreur sur le au moment de l'envoi en termes de qualification.
En termes de qualité du produit, entre guillemets. Enfin, tout ça avec beaucoup de guillemets, parce qu'on parle d'êtres humains. On va parler de la COP21 pendant des semaines et des semaines et des jours sur les antennes RFI, puis partout. Est-ce que le réchauffement climatique est déjà à l'œuvre en Afrique, produit déjà de nouveaux migrants, une nouvelle catégorie de migrants, Alexandre Marc?
Je pense que c'est le réchauffement climatique, depuis longtemps, a été une des causes des mouvements du Nord sur le sud de l'Afrique. Hein. Donc vous avez une descente des immigrés des régions les plus arides. Donc vous voyez très bien dans les travaux qu'on fait que les gens du nord du Mali descendent dans le sud du Mali, les gens du nord du Burkina Faso descendent dans les plateaux Mossi et en dessous, il y a encore de la terre. Les gens de l'ensemble du Burkina Faso descendent sur la Côte d'Ivoire. Et donc vous avez certainement une migration qui vient des zones les plus affectées par le changement climatique. En plus de ça, vous allez créer plus de vulnérabilité. Le changement climatique, c'est pas seulement la désertification du Sahara, c'est aussi beaucoup plus de vulnérabilité. Or, l'immigration, c'est un filet de sécurité pour beaucoup de communautés. Quand vous allez avoir des pluies diluviennes, quand vous allez avoir des débordements de rivières, la première réaction d'une famille qui a été dépossédée de tout, c'est bon, il faut que quelqu'un parte pour reconstituer notre stock. Donc, c'est sûr que le changement climatique va avoir un impact très fort sur l'immigration.
Eh bien, c'était le mot de la fin, Alexandre Marc. C'est la fin de cet écho d'ici, écho d'ailleurs consacré à l'immigration subsaharienne. Merci à vous trois, Nathalie Bougnou, Alexandre Marc et Flore Gubert, d'y avoir participé. Merci aussi à Fabien Mugneret, qui a réalisé et mis en onde cette émission. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle aventure économique.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.